먹었어?
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Ouais, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le 36e épisode du Corée Voyage Show. Et aujourd'hui, on est de retour au bord du fleuve Hangang, n'est-ce pas, Giuliani?
Tout à fait, avec ce pseudo-soleil d'automne, si je puis dire.
Pseudo-soleil, un peu caché par la brume. Voilà, on est en compagnie de notre amie Jane, mais qui se cache, donc on va la laisser tranquille. Mmh. Giuliani, comment vas-tu, toi?
Impeccable, comme d'habitude.
Bon, pas trop froid?
Pas encore, on a eu une petite période de froid, mais maintenant, ça y est, c'est reparti pour les beaux jours.
Les beaux jours, la douceur est revenue.
C'est ça, c'est l'été indien en Corée.
Le Indian summer, hein. Bon, ouais, aujourd'hui, on va avoir deux parties. Hein. Première partie, on va parler voyage. Une deuxième partie consacrée à l'actualité. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas posté, ça sera une actualité dédiée au mois d'octobre et au mois de septembre. C'est plutôt l'inverse. Mois de septembre et mois d'octobre. Bah, on va déborder sur le mois de novembre, mais maintenant qu'à faire. Alors, on entend, je sais pas si vous entendez, hein, c'est Squid Game hein, en direct.
C'est ça. C'est la même voix.
Il nous donne des instructions à suivre. Donc, on va pas faire n'importe quoi. Hein, sinon, on se fait arrêter direct. Hein. Ouais, quota. Bon, alors, Julien, c'est parti voyage. T'es allé te promener avec ta maman du côté de Gangwon-do, la région de Gangwon-do. Hein.
C'est ça, donc l'automne, hein, c'est la période idéale hein, pour les voyages. Hein. On est allé à Paektamsa.
Paektamsa, mais c'est où ça? C'est où? Odisseo.
C'est dans la région de Injaegook. Donc bon, pour s'y rendre, il faut prévoir environ 2 heures de trajet en voiture.
Inje quoi?
Injaegook. Gun.
Injaegook, le pays de Inje, donc Injaegun.
Injaegun. Inje, c'est là.
Ouais. Ouais.
Oui, tout à fait.
Donc dans la région de Gangwon-do.
C'est ça.
Gangwon-do.
Et plus précisément dans la région de Injaegun.
Donc dans la province, pardon, de Gangwon-do, nord-est de la Corée du Sud. Et à Gangwon-do, hein, c'est sympathique car on a les deux, hein, mer et montagne. Mais là, Paektamsa, donc le temple où tu es allé, il est plutôt situé du côté intérieur du mont Sorak.
C'est ça. De l'autre côté, on a plutôt le côté Sokcho. Hein, si je puis dire, si on repasse de l'autre côté de la montagne, c'est plutôt de ce côté-là.
Donc nous, on est du côté, pas du côté de la mer. Hein.
Côté ouest. Hein. Côté ouest de l'est.
Du côté ouest de l'est. Bon, d'accord.
Pour faire compliqué.
D'accord. Donc là, je pense qu'on ne sait plus où on est, mais ce n'est pas grave. On dit que la partie intérieure du mont Sorak est beaucoup plus mystique, beaucoup plus au calme parce qu'il y a moins de touristes. Elle serait vraiment plus au cœur de la montagne que la partie extérieure qui est plus proche de la mer. Et déjà, pourquoi tu as choisi Paektamsa? C'est qui a choisi?
C'est ma mère parce qu'elle était déjà allée et puis je sais pas, sur un coup de tête, on s'est dit bon, on part en voyage. Non mais c'est vrai, c'est comme on dit, hein, c'est un peu à l'arrache. Hein, parce que...
Ok, donc elle y était déjà allée, elle avait c'est bien ça. Aimé, elle s'est dit allez, on part en voyage, pourquoi ne pas retourner à Paektamsa?
Il y a peut-être déjà 15 ans, hein, donc...
Wow, ah oui, d'accord, elle avait trouvé que ça avait changé.
Ouais.
Ah oui. Mais comment
ça avait changé, comment en fait, c'est par rapport au tour de pierre hein, qu'il y a à l'entrée du temple. Hein.
Hey
raconte.
Masque. Ouais. Là-bas aussi, ils n'ont pas le masque. Hein. Mmh. Oh. Non, là, on se fait rappeler à l'ordre par monsieur, pas la police d'ailleurs, mais qui te dit il faut mettre le masque. Voilà. Bon, ben, il faut que je vous ai dit, hein, c'est un Squid Game ici. Il ne faut pas enfreindre les règles mises en place. Hein.
Donc, oui, ça s'est surtout changé au niveau des tours de pierre hein, qui sont construites autour du temple. Elle dit qu'auparavant, il y en avait beaucoup plus qu'il y en avait aujourd'hui.
D'accord. Ok, intéressant. Bon, alors, la particularité de ce temple du Yanni, Paektamsa.
Donc, en gros, hein, c'est un temple qui a été construit au 7e siècle, hein, donc pendant la période du royaume Shilla. C'est pas facile de parler avec un masque. Hein. Il a été démoli hein, plusieurs fois par des incendies hein, et reconstruit maintes et maintes fois. Et d'ailleurs, son emplacement a été changé à chaque fois qu'il a été démoli. Et sa version actuelle date de 1957. Et autre particularité, c'est que le temple a changé de nom plusieurs fois. Et c'est depuis 1783 qu'il est rebaptisé Temple de Paektamsa.
Eh ben d'ailleurs, Peck Damsa, pourquoi ce nom? C'est quoi ce nom là? Qu'est-ce que le nom Peck Damsa? Peck Damsa, Peck c'est 100, hein, je crois.
Beck Damsa, pour être traduit littéralement, c'est qu'on pourrait dire que c'est le temple des 100 flaques profondes. Non, c'est pas ça.
Les 100 flaques d'eau, ok. Donc ouais, on peut traduire ça par flaque d'eau. Toi, t'aimes bien le mot flaque d'eau, pourquoi pas
Par les 100 puits d'eau.
les 100 puits d'eau, allez, les 100 puits
En fait,
d'eau,
là, oui,
les 100 étangs,
la traduction est un peu compliquée.
Les 100 lacs. Il y a une notion de retenue d'eau, hein, et puis de profondeur. Donc ça peut être un bassin, un étang, un lac. Voilà. Mais bon, il n'y a qu'une explication, puisque...
Pour expliquer un petit peu l'histoire, hein, après ces nombreuses démolitions liées à des incendies, hein, selon la légende. Hein.
Ah, ça c'est la légende là.
Oui.
Ah oui, d'accord.
Selon la légende, un moine s'est inquiété des incendies répétés dans le temple. Hein, et il se dit qu'un jour, il fit un rêve dans lequel un vieux moine est apparu. Et ce moine lui a dit de reconstruire le temple à côté du 100e bassin d'eau en comptant depuis le sommet de la montagne des Jongbong. Et depuis ce jour, il se dit qu'il y a eu
plus d'incendies.
Plus d'incendies pendant de longues
Ah,
années.
plus d'incendies. Aïe, 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 d'accord. Ok, je
Voilà.
comprends. Eh ben, dis donc, ce moine, il avait bien vu le truc, hein.
Bah, selon la légende.
Selon la légende, c'est un
Ouais,
mythe, hein,
voilà.
mesdames et messieurs. Ce n'est pas une vérité. Quoique. Jane, vérité ou mythe? On ne le saura jamais, dit-elle. D'accord.
Mais j'ai cru lire aussi. Elle veut y croire, Jeanne. Et j'ai cru lire aussi que voilà, lors des incendies, il y avait souvent une apparition qui apparaissait dans les rêves enfin, la nuit, quoi, comme quoi il y avait un chevalier avec avec comment on
Une
l'appelle?
épée?
Non, un fer de
Ouais.
cheval qui apparaissait avant les incendies des temples. Bon, c'est une légende aussi, hein.
Bon, une autre particularité alors de ce temple, Giuliani, dis-moi.
Le temple était aussi connu, hein, pour être la résidence d'un célèbre moine qui s'appelle Han Myung-Goon, qui a été indépendantiste pendant la période coloniale japonaise.
Ouais.
Et que donc aujourd'hui, hein, si on se rend au temple Peck Tamsa, on peut y retrouver un mémorial
Dédié
dédié
à ce moine.
pour le souvenir de l'esprit de Han Myung-Goon.
D'accord, ok.
Donc là,
Ok,
c'est une
parfait.
des personnalités qui a marqué le temple.
Ouais.
Et je crois qu'il y a aussi une autre
Une
personne.
autre
C'est ça.
personnalité hein, qui s'appelle John Doo Hwan. Il y a un lien avec un sujet d'actualité qu'on abordera tout à l'heure hein, pour le mois d'octobre, et notamment avec un des présidents de la Corée du Sud, hein, No Tae-woo. Mais là, on parle de John Doo Hwan. Alors, vous verrez que ces deux personnages sont étroitement liés. John Doo Hwan, c'est le cinquième président de la Corée du Sud. Et donc, pourquoi il est également lié à ce temple de Paek Dam? Ça, c'est parce que lui et son épouse étaient venus se réfugier dans ce temple-là suite à l'élection de No Tae-woo. Donc, ils étaient venus s'y réfugier en 1988, pendant l'hiver. Alors, sachant que les Jeux Olympiques d'été hein, avaient eu lieu la même année. 1988, les Jeux Olympiques de Séoul. Alors pourquoi ils étaient venus se réfugier ici? Ben c'est sur les conseils du président No qui avait dit, bon, maintenant j'ai été élu président, on a quand même pas mal de casseroles tous les deux et le peuple commence à s'agacer et ben, il faudrait que toi tu fasses profil bas et que tu ailles t'exiler quelque part. Et donc il a choisi Paek Damsa pour s'exiler, entre guillemets, avec sa femme. Voilà. Donc on reviendra sur le contexte politique et historique de cette période parce que c'est intéressant même si c'est assez triste.
Il me semble, hein, que c'était pendant plus de 2 ans et demi, hein, qu'il s'est exilé dans le temple. Hein.
Oui, un certain moment. Et c'est pour te dire que le contexte à ce moment-là était plutôt tendu hein, en Corée. Paradoxalement, puisque ben, 1988, Jeux Olympiques d'été à Séoul, bon, c'est quand même censé être une année clé dans l'histoire de la Corée. Une année de développement, de rayonnement hein,
Rayonnement
de la Corée du
international.
Sud à l'international, tout à fait. Mais ben, souvent, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt.
Et donc effectivement, pour revenir sur le temple, hein, c'est un temple, hein, qui est situé dans une vallée très profonde, hein, de Nae-soh-lak. Donc voilà, idéal, hein, pour faire une retraite, hein, entre guillemets. Et ce qui en fait d'ailleurs un lieu naturel, hein, pour la pratique du bouddhisme. Et dans le passé, hein, son emplacement était tellement reculé qu'il y a vraiment très peu de gens qui venaient visiter le temple. Alors aujourd'hui, il y a une route, hein, qui a été aménagée, hein, qui permet de se rendre au temple par le biais de navettes, hein, qui passent toutes les 10-15 minutes.
Non mais toi, t'as pris la navette alors pour aller au temple?
Pour l'aller, on est allé à pied.
Pour y... À l'aller, vous y êtes allé à pied. Ah oui, c'est combien de kilomètres?
Environ 7 km.
7 km à pied,
Ouais.
mais vous êtes des marcheurs, vous, hein? Vous rigolez pas, hein?
7 km environ.
D'accord.
Et donc, bon, la route est un peu étroite, donc il faut faire un peu attention, parce que vu qu'il y a souvent les bus qui passent.
Hein, ouais, d'accord.
Vu que ça fait un peu une route, bah, tu vois, une route de ravin. Donc,
route de ravin, d'accord. Donc, sympa.
Donc, quand on entend le bus, hein, faut mieux aller se réfugier sur le bas-côté pour pas se faire écraser, on va dire.
Ok, ok, ouais.
Et donc, à la descente du bus, hein, on arrive, on traverse la vallée Bek Tamsa. Enfin, un pont en pierre pour se rendre au temple. Et là, comme je disais tout à l'heure, hein, en traversant le pont, on peut voir un nombre innombrable de tours de pierre construites pour exaucer les souhaits de ceux qui ont visité le temple. Autre fait particulier, hein, il n'y a pas de frais d'entrée. Hein, c'est une chose assez inhabituelle, hein, pour un monument classé bien culturel en Corée.
Oui, alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos chères auditrices et auditeurs qui voudraient se rendre sur les lieux de ce temple Bek Tamsa?
Comme, bah, comme partout, hein, faut éviter de sortir le week-end, si possible, si possible, bien sûr, de sortir le week-end de Séoul, hein, parce que bah, on est pris dans les bouchons. Hein. Toutefois, il est possible de s'y rendre en bus, hein, depuis le terminal est de Séoul. Autre conseil, hein, le temple propose un programme Temple Stay, hein, pour les personnes qui seraient intéressées pour vivre en immersion dans un temple bouddhiste coréen. Et celui-ci a d'ailleurs été désigné comme l'un des meilleurs temples stay
au monde
en 2018.
Enfin, en Corée, quoi.
En Corée, en 2018.
Oui, 2018, ouais. Pas au monde, pas au monde. Est-ce que toi, tu aimerais retourner dans ce temple Bek Tamsa? Dans 10 ans, tu vas te dire, ah, tiens, j'ai envie d'aller prendre l'air, je vais aller à Bek Tamsa.
Peut-être. Mais en fait, si j'y retourne, c'est... Bon, je ferais peut-être la randonnée, parce que c'est aussi un chemin de randonnée, hein. C'est le départ pour faire une randonnée vers Solaksan. Hein. Donc là, même quand on y allait, c'était, y avait beaucoup, beaucoup de randonneurs. Hein. Et avec l'automne, hein, c'est vraiment la saison pour aller faire des randonnées en Corée. Et d'ailleurs, quand on a pris la navette au retour, hein, y avait tellement de monde qu'on a fait la queue au moins pendant 40 minutes.
Bon, merci Giuliani pour cette partie voyage.
Mais de rien.
Magnifique, magnifique. Bah, toi, tu voyages beaucoup en Corée, donc c'était l'occasion de revenir sur cette petite virée que tu as faite avec ta maman. Et puis, on va passer maintenant à notre partie actualité pour le mois de septembre, octobre et même novembre.
C'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal d'on ne sait pas quelle heure du Corée Voyage Show, l'actualité de la Corée en ces mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Donc on commence, hein, par culture populaire. Des manifestants revêtent les tenues de Squid Game en Corée du Sud. Sauf si vous avez vécu dans une grotte ces dernières semaines, vous avez sûrement entendu parler de la série phénomène Netflix Squid Game ou Oji no Game en coréen. Le drama est devenu une sorte de symbole de lutte contre les inégalités du pays. Le 21 octobre, la Confédération coréenne des syndicats a organisé une manifestation rassemblant plus de 16 000 personnes à Séoul. Ils étaient nombreux à être vêtus de la combinaison rouge avec le masque noir. Leurs revendications sont les mauvaises conditions de travail, les contrats de travail précaires, ainsi que les lois qui ne protègent pas suffisamment les salariés des TPE. Les participants affirment que, comme dans la série, eux aussi ont du mal à gagner leur vie, et donc s'identifient à Squid Game. Pour rappel, la série Squid Game met en scène des Coréens en difficulté financière. Afin d'empocher la somme des 45 milliards de won, ils participent à un jeu mortel. La série incarne pour certains salariés les inégalités grandissantes dans le pays.
Allez, on enchaîne avec une partie voyage, encore voyage, toujours du voyage, que du voyage. Et on part pour la région de Yeongju, la ville de Yeongju plutôt, qui est située dans la province nord de Gyeongsangbuk-do. Il est désormais possible de visiter plusieurs sites aux alentours de la ville de Yeongju de nuit, mon cher Giuliani. Et les deux attractions de cette zone sont le temple de Pusok et l'école confucienne de Sosu. Donc Sosu Soon, école confucienne de Sosu, et Pusoksa, le temple de Pusok. Au sud de Yeongju, n'oublions pas de faire un tour du côté d'un village particulier qui s'appelle Musom Maeul. Un village entouré d'eau qui lui vaut le surnom de village péninsule. La particularité de ce lieu, un pont en bois large d'une trentaine de centimètres qui permettait de rejoindre le monde extérieur il y a plus de 350 ans, Giuliani. T'imagines ?
Rien que ça.
Rien que ça. Ils ont donc reconstruit ce pont sur lequel on peut maintenant marcher. On peut aujourd'hui donc marcher sur cette construction, mais attention à ne pas tomber
dans le trou.
Pardon. Allô.
Et on continue sur la partie voyage. Et donc là, on part du côté de la ville de Jaecheon. Et il faut savoir qu'en Corée, hein, de par ces terres montagneuses, les ponts suspendus sont des attractions phares en Corée du Sud. Et d'ailleurs, ils sont déjà très nombreux sur le territoire. Ce mois-ci, la ville de Jaecheon a également achevé son pont suspendu.
D'accord, et t'as fêté l'ouverture, non ?
Exact, c'est ça. Enfin, on n'a pas fait l'ouverture, mais on est allé le premier week-end.
Donc, mais ils étaient bondés de monde.
C'est ça, ils ont annoncé environ 30 000 visiteurs sur le week-end.
Sur le week-end, oui. Oui, oui. Le pauvre pont.
Donc le pont est nommé Oksungbung Cholongdari. Et donc c'est un projet qui a été lancé l'année dernière avec un budget de plus de 8,5 milliards de won qui a permis la construction de ce pont suspendu d'une longueur de 222 mètres et de 1,5 mètre de large. Et en traversant ce pont, hein, vous pourrez profiter de la magnifique vue sur la rivière Nam Hangan, la même Hangan que l'on retrouve à Séoul, mais plus au sud. Le pont a été promu pour revitaliser l'économie locale. Un sentier a été également créé reliant le site pittoresque numéro 48, Oksungbung. Et outre ce pont suspendu, hein, la ville de Jaecheon propose aussi des expériences de kayak, canoë, ainsi qu'un téléphérique. A noter que l'entrée de ce site est gratuite jusqu'en mars 2022.
Tu m'as dit que c'était vraiment magnifique, magnifique, que t'avais rarement vu une région de cette beauté. Là.
Bon, peut-être pas rarement, peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que la route, hein, c'est vraiment une route montagneuse et les paysages sont vraiment très beaux, hein, pour se rendre à Jaecheon. C'était très agréable.
Allez, on passe maintenant à une section culture et plus particulièrement cinéma. Je voulais revenir sur la sortie du documentaire dédié à une partie de la vie de Kim Chang-yeol. Surnommé le peintre des gouttes d'eau, l'artiste Kim Chang-yeol est décédé à l'âge de 91 ans au mois de janvier dernier. Un documentaire intitulé « L'homme qui peint des gouttes d'eau » nous montre la vie de cet artiste hors pair entre 2015 et 2019. Ce documentaire a été réalisé par son fils, Kim Ho-han, talentueux photographe, vidéaste et musicien. Cette perle cinématographique et artistique a remporté la Corne d'argent au festival du film de Cracovie au mois de juin dernier, en Pologne. Donc pour revenir rapidement sur la vie de Kim Chang-yeol, il est né pendant l'occupation japonaise à Mengsan, actuellement en Corée du Nord, et a aussi vécu la guerre de Corée dans les années 50. Une goutte d'eau est censée être de substance légère et se rapproche du vide, du néant. Mais pour Kim Chang-yeol, elle représente des cicatrices, des blessures, des larmes, un corps liquide plus épais que des larmes. Alors ça, c'est lié à son passé assez douloureux et assez lourd, hein, puisqu'il a vécu deux tragédies. Il a été témoin de guerre et de violence pendant la condition japonaise et pendant la guerre de Corée. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de cet artiste? Déjà pour son œuvre, hein, qui est remarquable, mais également car il faut savoir qu'il est parti en France en 1969 et il a vécu là-bas pendant plus de 40 ans, 45 ans je crois. Et il a rencontré là-bas son épouse en 1970, Martine Guillon. Une Française, voilà. Donc après, ils ont eu leur fils, hein, qui a réalisé ce documentaire. Ce documentaire, d'ailleurs, qui sera diffusé sur les écrans, enfin sur le grand écran plutôt, lors du festival du film indépendant de Séoul, qui aura lieu à la fin du mois de novembre jusqu'au début du mois de décembre. Donc on vous mettra les infos dans la description si ça vous intéresse. Moi, je n'ai pas vu le documentaire encore, mais j'irai certainement le voir. Donc, je pourrai vous en dire un peu plus sur cette œuvre cinématographique d'Uliani. D'ailleurs, si tu veux venir, tu es le bienvenu.
Donc, partie cinéma suite. Hein, le film Escape from Mogadishu, sélectionné par la Corée aux Oscars. Le film, hein, sera le film coréen représenté aux Oscars de l'année prochaine. Hein. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie. Hein. Ce long métrage raconte l'évasion des employés des ambassades des deux Corées en Somalie au début des années 90. Il s'agit d'un film qui a fait le plus d'entrées en 2021 en Corée du Sud, avec plus de 3 millions de spectateurs. Les droits du film ont déjà été vendus dans plus de 50 pays à travers le monde et a déjà reçu de nombreuses critiques élogieuses aussi bien en Corée qu'à l'étranger. Le cinéma coréen espère donc continuer d'attirer l'attention du monde sur ses films, comme l'avait fait le film Parasite il y a 2 ans, qui avait remporté le César du meilleur film non anglophone. Alors après Parasite, Escape from Mogadishu sera-t-il le nouveau succès du cinéma coréen?
Allez, Giuliani, on va parler politique maintenant. Donc, l'ancien président coréen, No Tae-woo, est décédé à l'âge de 88 ans. Alors, No Tae-woo, c'est le sixième président de la Corée du Sud, qui laisse derrière lui un héritage mi-figue, mi-raisin, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'image du coup d'État de décembre 1979, qui amena Chun Doo-hwan, donc la personne dont on parlait tout à l'heure, le cinquième président de la Corée du Sud, qui était allé se réfugier dans ce fameux temple de Paekdamsa, au pouvoir. Il provoqua les manifestations en faveur de la démocratie de Gwangju en 1980 et le massacre de centaines de manifestants. Il accède au pouvoir l'année des Jeux Olympiques d'été de Séoul en 1988. Il est à l'initiative de projets de développement industriel du pays. On lui doit entre autres la construction de l'aéroport d'Incheon, l'aéroport international, et l'élaboration du système ferroviaire du train à grande vitesse. Le bilan reste néanmoins plutôt obscur, puisqu'il est arrêté en 1995 pour corruption. Il aurait reçu des fonds de la part d'hommes d'affaires lors de son mandat présidentiel. Il est également tenu responsable du coup d'État de 1979 et du massacre de Gwangju. Rien que ça. Donc des accusations lourdes, même très lourdes.
Il a d'ailleurs reconnu la plupart de ces accusations lors d'une interview télévisée qui avait fait le tour des télés dans le monde.
Donc condamné à 17 ans de prison pendant ce qu'on appelle le procès du siècle, carrément en Corée c'était vraiment un événement majeur, en 1996. Il est ensuite libéré en 1997, ça va vite, hein, condamné et libéré, après avoir été pardonné par le président de l'époque, donc Kim Yong-sam, sur les conseils de Kim Dae-jung. Donc Kim Dae-jung qui était conseiller du président de l'époque, et puis bon, c'est Kim Dae-jung qui a succédé à Kim Yong-sam par la suite. Un petit potin pour vous, mesdames et messieurs. No Tae-woo a une fille, So Young, qui est mariée au président du groupe SK.
Et ces deux-là sont actuellement en instance de divorce. Alors le groupe SK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands conglomérats sud-coréens. Et pour revenir au sujet d'origine,
No Tae-woo a été condamné à 17 ans de prison. Chun Doo-hwan, lui, avait été condamné à mort, hein, carrément. Donc vraiment pour des crimes graves et sérieux. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même un régime militaire, hein, puisque... Ben, que ce soit Chun Doo-hwan ou No Tae-woo.
Ils sont tous les deux issus de la classe militaire.
La Corée, malgré les Jeux Olympiques d'été de 1988, vraiment commençait à peine à devenir une démocratie. Jusque-là, c'était vraiment une dictature militaire dure.
D'ailleurs, c'est le dernier président qui est issu de l'armée.
Très intéressant de le noter, mon cher Giuliani. Et je te laisse la parole sans plus attendre.
On revient sur un sujet un peu plus d'actualité. À partir de novembre, la Corée du Sud va adopter le régime vivre avec le Covid, ou with corona en coréen.
With the corona, à la
c'est ça, with corona.
Avec le
with
corona.
Le Covid.
Oui. With the Covid.
With the Covid. Alors que la barre des 70% des 52 millions d'habitants du pays ont reçu leur schéma vaccinal complet.
J'ai l'impression d'entendre, d'écouter le ministre de la Santé là.
C'est ça,
très
non,
bien, très bien, vas-y.
C'est ce qu'on dit, hein, on dit le
schéma vaccinal complet.
Hein. La Corée du Sud va progressivement supprimer ses restrictions Covid à partir de ce mois, puisqu'on est au mois de novembre, et adopter donc le régime dit vivre avec le ou la Covid. Et donc, dès le mois de novembre, toutes les installations polyvalentes en installation de divertissement pourront de nouveau opérer 24 heures sur 24. Donc, on parle des cafés et des restaurants, bien entendu. Les rassemblements seront également autorisés jusqu'à 10 personnes à Séoul et 12 en province. Également, un pass vaccinal ou un pass sanitaire sera mis en place pour l'entrée des installations dites à haut risque, telles que des installations de divertissement, donc les boîtes de nuit ou les salles de sport. Une deuxième phase est ensuite prévue mi-décembre qui portera plus sur les événements à grande échelle comme les concerts ou les événements sportifs. La Corée espère lever l'ensemble des restrictions au plus tôt en février 2022. En fonction de l'évolution
de la crise.
C'est ça.
On va tout de même rester optimiste, mon cher Giuliani, puisque on va rester sur une note positive. Et on a lu, selon des sources officielles, que la quarantaine était passée d'une durée de 14 jours
ça
à
avance.
10 jours, n'est-ce pas?
Exactement, depuis le 1er novembre.
Et d'un autre côté, on attend avec impatience les levées des restrictions pour pouvoir vous accueillir, mesdames et messieurs, en Corée du Sud, et pour que vous puissiez enfin voyager.
On espère peut-être début d'année prochaine.
début d'année prochaine. N'hésitez pas à nous suivre d'ici là sur tous nos réseaux sociaux, parce qu'on poste régulièrement du contenu, des photos, etc. pour vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. On ne manquera pas en fait de vous tenir informés de l'évolution de la situation dès qu'on aura plus de nouvelles. Le gouvernement sicourien devrait faire des annonces là pendant ce mois de novembre pour qu'on puisse y voir un peu plus clair pour la suite des événements, n'est-ce pas ?
On espère, on espère.
Bon, allez, Giuliani, qu'est-ce que tu as prévu ce week-end, toi ?
Ce week-end, non, ce week-end, il fait beau, donc bon, peut-être un petit tour en montagne pour aller profiter des feuillages d'automne en
Corée. Les derniers, peut-être, feuillages d'automne, puisque là, ça commence à être la fin.
La fin, bon, ouais, peut-être pas, peut-être encore une petite semaine. S'il fait beau, faut s'attendre à beaucoup de monde dans les montagnes.
Ça nous a fait plaisir, en tout cas, de vous retrouver, mesdames et messieurs, avec notre ami Giuliani, notre ami Jane, donc qui nous a quittés, hein, qui est parti là. Et puis, bah, là, on a pris un peu l'air, il fait bon aujourd'hui, on est au bord du fleuve.
Il fait quand même chaud pour un mois de novembre.
Il fait bon. On a les jardiniers qui travaillent à côté de nous. Et on a le monsieur qui nous a rappelé à l'ordre tout à l'heure, qui vient de repasser.
Les jardiniers ne portent pas leur masque.
Qui nous a ordonné de remettre notre masque. Donc on rigole pas sur cette bonne parole. On vous remercie encore une fois, mesdames et messieurs, de continuer à nous suivre. Et on vous dit à bientôt. Tamé, Pekun Simda, Giuliani, dernier message pour nos auditrices et auditeurs.
Ah oui, on vous attend en Corée une fois que les restrictions seront levées.
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs.